Le grand forum, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes vendredi, nous sommes le 15 novembre et vous êtes bien sur France Maghreb 2. Vous avez d'ailleurs raison d'y rester d'ailleurs parce qu'il se passe toujours quelque chose dans cette émission, dans le grand forum. Et aujourd'hui, je dois dire, je suis un peu ému parce que c'est quelqu'un que l'on connaît ici à la radio sur les ondes de France Maghreb 2 qu'on a eu à appeler malheureusement dans des conditions pas toujours idéales et dans des moments difficiles que vit son Gaza. Oui, parce que c'est un Gazaoui de cœur, de vie, de tout ce que vous voulez. Il est ici avec nous en face de moi et je suis ravi de l'avoir. Nous sommes ravis de l'accueillir dans nos studios aujourd'hui, monsieur Ziad Medouk. Bonjour, bienvenue Ziad.
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation.
C'est un grand plaisir et un honneur de t'avoir en face de moi Ziad, et on s'était jamais rencontré, on s'était beaucoup parlé auparavant.
Échangé par téléphone.
Voilà, par téléphone, par Skype quand
par contact avec mamie si en 2016 quand j'ai eu mon prix poétique.
Oui, absolument. Donc poète monsieur Ziad Medouk, mais aussi professeur de français à l'université Al-Aqsa à Gaza. Tu es arrivé fraichement de Gaza là, ce matin.
Ce matin, oui.
Combien de temps pour venir?
3 jours.
Voilà.
Bon. Et 5 jours pour revenir.
Pour m'accompagner aujourd'hui, Audrey Pronostic est avec nous. Bonjour Audrey.
Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs.
Journaliste évidemment au Bondi Blog et avec nous sur France Maghreb 2. Tarek Mami, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours heureux d'être ici avec vous le vendredi. Heureux aujourd'hui parce que j'ai Ziad à ma droite. Alors merci, Ziad et tout ce qu'il a dit. Et en plus il est surtout un militant éternellement optimiste de la cause palestinienne dans des moments où les Palestiniens, les Arabes en général, les Palestiniens peut-être en particulier, sont dans le désespoir. Chaque fois que j'échange avec Ziad, il y a toujours
de l'espoir.
Il y a toujours d'espoir. Il y a toujours une signature Gaza la vie. Donc bon, ça recharge.
C'est une chaîne YouTube d'ailleurs, hein, Gaza la vie.
Oui, ouais. Ce sont les diplômés qu'ils ont pris là par voilà. Gaza la vie. Oui.
Bon, Gaza évidemment qui a encore vécu, qui continue de vivre sous les bombardements. D'ailleurs, pas plus de 37 victimes, 38 maintenant.
Dont depuis, une famille de 8 décimées.
Ouais. 8 décimées, dont une femme enceinte.
Ouais, une famille décimée.
Bon, on n'est plus à ça près, hein, j'allais dire, malheureusement.
Bah, 240 morts en 2014.
Ouais.
Là, ces pays qui trouvent que ce qui s'est passé en 2010, que le crime n'était pas massif. Excusez-moi, c'est pour ça que madame la procureure donc, de la CPI n'a pas ouvert le dossier. Alors, on nous a appris, nous, en droit, qu'il y ait un mort ou 1000 morts, le crime est constitué. Alors, quand un procureur de la CPI nous dit que le crime n'est pas massif, on va tous aller un petit peu, cher Christophe, vous apprenez peut-être l'information là, nous allons faire un tour du côté de La Haye le 29 novembre.
Ah oui, c'est organisé par Capjipo, je crois.
Voilà, oui, et quelques autres. On va aller en bus, en train, à pied, à chameau.
Ah oui.
Ça peut servir.
À chameau, ça risque d'être compliqué quand même.
Non, c'est pas compliqué. Il suffit que le chameau et c'est.
Il n'y aura pas de désert.
C'est carte de vaccin. Et puis, on ira pour parler à madame la procureure. Pour
ils
dire, voilà, il y a des gens.
On va réserver une place à la fin. Donc.
Voilà. Et on le dira, madame, il y a des gens qui croient que la justice, elle est universelle et pour tous, et qu'il n'y a pas une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, une justice pour ceux qui ont des lobbies, et une justice pour ceux qui n'en ont pas.
La question du jour, elle est liée évidemment à ce qui se passe à Gaza. Gaza, 34 Palestiniens assassinés en 48 heures par l'armée israélienne.
On peut rajouter 38, donc.
Dont 8 membres d'une même famille, face au silence des médias et l'absence de réaction de citoyens. Doit-on considérer, Ziad, que la cause palestinienne désintéresse le grand public?
Écoutez, moi je pense que l'armée israélienne, elle a l'habitude d'agresser Gaza en pleine trêve. Sachez que depuis 2014, depuis la dernière offensive israélienne contre la bande de Gaza, il y a eu 2400 morts et presque 10 000 blessés avec une destruction massive de 30% de la bande de Gaza. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'armée israélienne est une armée hors la loi. Donc tous les jours, donc les Israéliens, ils n'ont pas besoin de prétexte pour agresser Gaza. Entre 2014 et 2019, il y a eu presque de 300 morts palestiniens, soit lors de la marche de retour, soit lors des bombardements israéliens. Et malgré tout cela, donc, Israël est toujours un État impuni. Donc, impuni par l'instance internationale, impuni par les organisations internationales. Et les Palestiniens, notamment les Palestiniens de Gaza, ils sont laissés à leur sort. À leur sort, ça veut dire quoi? À Gaza, il y a la souffrance au quotidien. Il y a le blocus israélien qui dure depuis presque 13 ans. Il y a le chômage, la situation économique et il y a les agressions israéliennes au quotidien. On a le vendredi, tous les vendredis, il y a marche de retour avec les snipers israéliens qui tirent sur les Palestiniens. Et Israël n'a pas besoin d'un prétexte pour agresser les Palestiniens. Et chaque fois quand il y a un missile qui sort de Gaza, donc la réaction israélienne est toujours très forte. Et le problème dans les médias, et surtout les médias étrangers, donc, et malheureusement, toujours, ils cautionnent les crimes israéliens et ils oublient qu'il y a une souffrance, qu'il y a 2 millions de Palestiniens en souffrance permanente. Et ça, c'est honteux pour les médias qui prétendent être objectifs. La situation à Gaza est terrible. Nous avons vécu 3 jours difficiles, mardi, mercredi et jeudi. Et même ce matin, il y a eu des bombardements israéliens, 5 raids israéliens, malgré donc le cessez-le-feu, donc, avec la médiation égyptienne, donc, qui était arrivée, jeudi, hier. Donc, le problème que les Israéliens continuaient leur politique agressive à la rencontre des Palestiniens. Les Israéliens, l'armée israélienne, elle est en train de commettre des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et on a vu, lors de cette nouvelle agression, il y a eu 8 membres de la même famille qui ont été tués suite à un raid israélien. Et donc, les Israéliens, ils sont impunis. Ils profitent de cette impunité pour continuer à agresser les Palestiniens. Et les Palestiniens de Gaza, ils n'ont pas le choix. Ils ont un seul choix, c'est rester sur terre, résister. Malgré donc une conjoncture difficile, soit dans le monde arabe qui n'est pas à leur faveur, soit la situation internationale qui est malheureusement gérée par les États-Unis qui essayent un peu d'imposer un plan américain. Mais je pense que les Palestiniens, ils ont montré une patience, une résistance magnifique. Je vais terminer avec cette phrase de cette déclaration de vice-ministre israélien de la Défense. Il a déclaré ça mardi parce que il a dit que nous, l'armée israélienne, on attaque. On a attaqué la Syrie, on a attaqué le Liban, on a ciblé des activistes iraniens en Syrie, au Liban, même en Irak, on n'a eu aucune réponse. Par contre, Gaza, qu'il est sous blocus, qu'il y a la souffrance et difficultés, on a lancé un bombardement, on a eu 130 missiles. Donc, comment ces Gazaouis résistent? Eux, même les Israéliens qui sont à côté, ils n'arrivent pas à comprendre comment les Palestiniens, ils sont en train de
développer. Comment ils résistent, Yad?
Voilà.
Comment ils résistent? C'est la question. Voilà.
Ouais, justement, ils résistent parce que les Palestiniens de Gaza, ils sont magnifiques. Parce que d'une part, ils adorent la vie.
Ouais.
Et en même temps, ils n'ont pas peur de la mort. Donc c'est ça la force des Palestiniens.
Ouais.
Les Palestiniens, ils ont décidé de rester. Les Palestiniens, ils gardent espoir malgré tout. Voilà, les Palestiniens, ils sont là. En 48, il y a eu des massacres israéliens. Mais actuellement, en 2019, il y a des massacres israéliens. Et ça, c'est pas Ziad Medou qui dit. Ce sont les organisations internationales qui sont venues, qui qualifient les crimes israéliens comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Malgré ça, les Palestiniens, ils sont là, ils sont pas partis. Et ça, c'est ça la force des Palestiniens. À Gaza, tout est malheureusement malheureux. On trouve le pire. Donc, si vous allez vivre à Gaza, personne de l'extérieur va imaginer comment ces Gazaouis se portent l'insupportable. Donc, vous avez un blocus depuis 13 ans. Ça veut dire quoi un blocus? Un blocus, ça veut dire enfermer les Palestiniens dans une prison à ciel ouvert. C'est très difficile de sortir, d'interdire. Il y a une liste de 130 produits qui n'entrent pas à Gaza. Il y a 1000 types de médicaments qui n'entrent pas à Gaza. Il y a le chômage. Les fonctionnaires, on a 130 000 fonctionnaires, soit nommés par le gouvernement de Gaza, soit le gouvernement de Hamas, de l'autorité palestinienne, ils touchent depuis un an et demi 30% de leur salaire. Et malgré ça, ils vivent. Ça veut dire qu'il y a ici une forte adaptation avec la vie. Il y a une patience. C'est ça le courage. Le courage, la patience, la volonté, la détermination, la résilience. C'est ça aujourd'hui, les Palestiniens de Gaza. Et ça, c'est ça qui a fait peur aux Israéliens. Imaginez que les Palestiniens, ils sont en train de développer beaucoup de formes de résistance, et même maintenant, dans la bande de Gaza, avec la marche de retour commencée le 30 mars 2018, qui entre dans son deuxième année,
ouais.
Et malgré le bilan très lourd, presque 320 morts, presque 12 000 blessés et 120 amputés, mais il y a un développement d'une stratégie non violente. Et donc, ça montre un peu que les Palestiniens, pas seulement ils résistent, mais ils développent davantage des formes de résistance. Et toutes les formes de résistance sont légitimes, soit résistance politique, résistance militaire, résistance économique, sur le terrain, les pêcheurs qui continuent à aller sur la mer malgré les menaces de la marine israélienne, les paysans qui continuent à aller sur la zone tampon malgré la présence de snipers israéliens, les familles qui encouragent leurs enfants à aller à l'école et les enfants, le taux de scolarité dépasse 95% dans le territoire palestinien malgré le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas ni de goûter ni d'argent de poche. Et on a étudié à 55 à 60 élèves dans la classe, des classes souvent détruites, écoles détruites par les différents bombardements israéliens, mais il y a une vie, il y a un attachement à la vie, et c'est ça Gaza. C'est pour cela vous avez parlé de Gaza la vie. Gaza la vie, c'est une, voilà, les jeunes diplômés de français, ils ont créé une chaîne YouTube gratuite, ouverte à tout le monde. Il a fait 300 vidéos en 9 mois. Il s'appelle Gaza la vie. Donc Gaza la vie, ça montre qu'il y a des initiatives. En fait, Gaza, c'est une ville contradictoire. On trouve tout et on trouve rien. Voilà. Alors, les gens, ils ont rien et malgré ça, ils vivent.
Ziad. Oui. On a des questions à te poser. Si tu nous fais toutes les réponses avant qu'on te pose des questions, mon Ziad.
Vous avez le droit de poser toutes les questions avec moi.
Je rappelle aux auditrices, auditeurs qui peuvent évidemment nous appeler. Et c'est l'occasion vraiment. Vous avez envie de savoir comment ça se passe concrètement, réellement. Vous avez Ziad Medouk qui est avec nous ici. Il vient d'arriver de Gaza à Paris aujourd'hui. L'occasion de le, voilà. Des questions, vous pouvez les poser en nous appelant 01 40 33 9000. Audrey Pronosti.
La première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est l'organisation sur le plan sanitaire, sachant que il y a le blocus, hein, et ça vraiment je me pose cette question parce que forcément avec toutes les frappes qu'il peut y avoir régulièrement, tous ces morts, sur le plan sanitaire, comment vous vous organisez concrètement?
Écoutez, il y a beaucoup d'organisations, soit nationales, soit internationales, qui travaillent dans le domaine de santé, dans le domaine d'éducation, mais pour le domaine de la santé, donc c'est vrai, la situation est terrible.
Ouais.
Et soit à des agressions israéliennes, soit suite à des attaques des snipers israéliens, donc lors de la marche de retour. Donc ça montre. Donc ici, nous avons des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé qui travaille sur place. Nous avons des organisations, des ONG internationales comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Nous avons des organisations donc local qui travaille. Donc je pense qu'il y a une volonté, il y a un travail de fond fait par, donc il y a une conscience, prise de conscience de cette situation. Donc il y a des difficultés, mais il y a une volonté. Je pense que ces difficultés, c'est eux qui ont augmenté le nombre de blessés et le nombre de morts, parce que voilà, le problème c'est qu'il y a un manque de moyens. On n'a pas beaucoup d'hôpitaux, on n'a pas beaucoup de lits, on a un manque de formation à cause de blocus, mais ils se débrouillent, les médecins sur place, les infirmiers, ils essayent un peu grâce à une coopération internationale. Donc je pense qu'il y a un manque de beaucoup de choses, de médicaments, d'hôpitaux, mais il y a des hôpitaux sur place, sur le terrain, et donc les secouristes, les médecins, les infirmiers, ils essayent de travailler avec le minimum pour essayer un peu,
ouais,
de développer donc un système de santé plus ou moins adéquat avec la situation catastrophique de la bande de Gaza.
On va accueillir Mohamed qui nous appelle de la région parisienne, qui a une question pour toi, Ziad Medouk, en direct pour nous sur France 2.
Bonjour Mohamed.
Salam alaikum Ziad, salam alaikum à tout le monde. Je suis un petit peu ému parce que voilà, j'écoute souvent et voilà, là Ziad est là en direct.
Ouais, il est là avec nous en direct, ouais.
Voilà, donc je suis un petit peu ému.
Viens prendre le café avec nous, il y a un café magnifique.
Une question très très simple Ziad. Moi je suis un petit monsieur un monsieur tout le monde et je veux aider la Palestine. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Ah, ça, c'est simplement une question intéressante qui nous est posée par...
La politique, ça aide le peuple vraiment. Parce qu'on entend plein de choses, malheureusement, on est méfiant. Et à qui on peut s'adresser?
Comment peut-on faire pour vous aider concrètement? C'est là la question de Mohamed. Merci Mohamed pour la question.
Écoutez, moi je pense que le plus important pour nous, les Gazaouis, malgré notre souffrance, malgré les besoins énormes, c'est la solidarité morale qui compte pour nous. C'est numéro un. Numéro deux, c'est la diffusion d'informations. Surtout, on doit profiter de réseaux sociaux pour essayer un peu d'élargir la solidarité. Donc les Palestiniens, c'est vrai, les besoins sont énormes, mais c'est pas l'aspect matériel qui compte. Même si les besoins sont énormes sur place, même s'il y a des destructions massives, le chômage, la pauvreté, le taux de pauvreté dépasse 67%, mais le plus important, c'est la solidarité morale. On a besoin de renforcer cette solidarité à travers des actions de solidarité, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et je pense, c'est ça l'aspect. Et je pense, il y a un autre aspect que Christophe déjà a participé avec Mamé, c'est les échanges. Les Palestiniens, ils sont assoiffés parce que les Israéliens, ils veulent enfermer les Palestiniens et les Palestiniens, ils vont sortir de cet enfermement. Mmh. Heureusement qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des Internet. Et avec Christophe, on a fait deux Skype magnifiques avec les étudiants du département de médias de l'Université de Gaza. Ils ont été appréciés. Et donc, c'est ça le plus important. Mais à mon avis, envoyer l'argent, parce que l'argent, les gens ils vont acheter de farine, après c'est fini. Non, il faut envoyer surtout des échanges, des encouragements, de solidarité, de soutien. Le plus important pour nous, c'est pas l'argent qui compte, mais surtout c'est la solidarité morale et des projets concrets et surtout des échanges concrets. Ça veut dire si des médecins palestiniens, des médecins français, des étudiants, des infirmiers, des journalistes, à mon avis, ça touche beaucoup donc les Palestiniens de Gaza qui ont besoin de sortir de cet enfermement voulu par l'occupation israélienne. Et merci beaucoup Mohamed pour votre bon volonté.
Merci à vous Mohamed, on va accueillir Saléha. Audrey.
Oui, je vous écoutais tout à l'heure quand vous parliez de cet amour de la vie. J'ose même pas imaginer ce qu'un Gazaoui peut ressentir. Nous, petits occidentaux, c'est des petits soucis de la vie de tous les jours qui n'ont strictement rien à voir. Pourquoi je fais cette digression? C'est tout simple, c'est que cet amour de la vie, je présume qu'elle doit décupler le sens de la résistance, justement, de vouloir se battre. Comment ça se traduit au sein même de la jeunesse? Parce que c'est souvent à l'âge de 20 ans qu'on commence à se découvrir une identité militante, et puis là pour le coup là c'est une question de survie. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit?
La jeunesse qui est très importante à Gaza d'ailleurs.
Bien sûr, donc l'avenir, donc 75% de la population palestinienne et des jeunes de moins de 25 ans. Donc pour répondre directement à votre question, donc c'est imaginable, c'est difficile d'imaginer de l'extérieur la vie à Gaza.
Ouais.
Et donc moi, il y a deux semaines, j'ai écrit un article, il s'appelle « Gaza, c'est une ville enfermée, c'est une ville, mais c'est une ville qui impressionne tout le monde ». Et ça, c'est vrai. Il faut venir à Gaza, vivre à Gaza pour comprendre comment les Gazaouis supportent cette situation, surtout les jeunes. Parce que c'est pas facile. Ça veut dire quoi un jeune? On doit définir ça veut dire quoi un jeune palestinien? Un jeune palestinien de 18 à 25 ans, ça veut dire une personne sans espoir, une personne sans avenir, une personne qui vit le traumatisme, qui vit le chômage, qui vit le blocus, qui vit les agressions. Un jeune palestinien qui a jamais quitté Gaza. Donc souvent, on a presque 95% des Palestiniens de Gaza qui n'ont jamais quitté les territoires palestiniens depuis le blocus. C'est rarement seulement les malades, les patients, quelques étudiants, quelques conférenciers, parce que le passage de Rafah surtout, il ouvre trois heures par jour pour permettre seulement à 250 Palestiniens de passer. Et donc, voilà, c'est pour cela qu'on a difficulté.
Il a été fermé pendant longtemps aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, nous, le plus important pour nous, c'est essayer. Donc ici, je pense qu'il y a trois aspects très importants pour répondre à votre question. Donc, il y a une jeunesse en souffrance permanente à cause de blocus, à cause de la fermeture de frontières, à cause de chômage, à cause d'absence de perspective.
Ouais.
Mais il y a une jeunesse résistante, qui a décidé de rester, de ne pas partir. Si on va prendre le nombre depuis 2014 jusqu'à 2019, il n'y a même pas 30 000 Palestiniens qui ont quitté Gaza, il y a 23 000 qui sont revenus. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'émigrer, mais ils ont dit que Gaza, c'est mieux, malgré l'enfer, malgré l'embombardement, le blocus. Donc ça montre un peu qu'il y a une génération résistante qui a essayé de rester, de ne pas partir. Après, on a une jeunesse innovante, ça veut dire qu'elle se débrouille.
Ouais.
Elle fait des activités de bénévolat, comme je dis, les jeunes francophones qui ont créé Gaza la ville. Il y a des femmes qui n'ont pas diplômées, qui ne trouvent pas de travail, mais elles essayent un peu de travailler dans la maison, préparer des gâteaux et des repas pour vendre. Donc voilà. Donc il y a ce système de débrouille
en fait.
Voilà, c'est débrouille, adaptation, c'est adaptation.
Ouais, on s'adapte à la situation et cela, tu sais qu'elle est compliquée.
Nous, les adultes, c'est pour cela notre place c'est là-bas, c'est pas ici. C'est pour cela on a décidé de rester pour remonter le moral de ces jeunes. C'est pour cela nous, les journalistes, les intellectuels, les universitaires, on a décidé de rester à côté de cette population, de cette jeunesse, pour essayer. Donc on peut dire plutôt une jeunesse désespérante, mais une jeunesse qui se débrouille, qui essaye de montrer qu'elle est très attachée à la Palestine.
Ziad a soif de vous raconter. Hein. Donc Gaza, sa Palestine, sa situation évidemment catastrophique. Tarek Mami d'ailleurs va nous parler. Vous avez jamais été à Gaza, Tarek?
Moi?
Oui.
Si je vous dis oui.
Ben non, mais dites-moi oui ou non. Mais est-ce que vous avez... Alors, ma question, je la repose autrement. Avez-vous déjà mis les pieds sur cette terre de Gaza? Oui. Palestine, je sais que oui, vous y êtes allé même plusieurs fois.
Et Gaza aussi.
Gaza aussi. C'était sous blocus ?
Avant blocus, c'était le jour de la signature des accords d'Oslo.
Puisque ah oui, donc ça remonte, oui, d'accord.
Il y avait une espèce de liberté de circulation dans le deux sens. Et quand je suis arrivé à Gaza, on m'a dit, la seule chose que vous devez savoir, c'est que vous devez quitter Gaza, c'était 18h ou 19h, ou dormir dans un hôtel à Gaza. Et je suis resté une nuit à Gaza.
Très bien, donc ça c'est un souvenir qu'on n'oublie pas.
Ah ben, quand on a visité la Palestine une fois, ouais, c'est un souvenir qu'on n'oublie pas. Je dis pour ceux qui ont un minimum de cœur, que s'ils se rendaient une fois dans leur vie à Jérusalem, à Quds, c'est quelque chose qui ne s'enlève pas. Je sais que j'ai beaucoup de furieux, moi qui ai été en Arabie Saoudite, à la Mecque, à droite, à gauche, à Kairouan, en Tunisie. C'est-à-dire, quand on arrive à Al-Quds, Jérusalem, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et dans la tête qui fait que moi j'ai compris pourquoi ni les Israéliens ni les Palestiniens ne veulent lâcher Al-Quds. Il y a une atmosphère, je ne sais pas si Ziad a eu la chance d'y aller avant les blocus et tout ça, mais quand on arrive dans cette ville, vous avez un air qui flotte. Vous avez une couleur de ciel que vous pouvez pas voir ailleurs. Vous avez une espèce de température où il fait toujours bon, frais. Et quand moi j'ai eu la chance de passer plusieurs jours à l'intérieur de Jérusalem. Aujourd'hui, quand j'ai envie de Jérusalem, je me promène dans ma mémoire, dans mon imaginaire, et je visite la vieille ville de Jérusalem, parce que je la connais, comme dit l'autre, je dirais pas mètre par mètre, mais je la connais aussi bien que je connais Paris, et je connais même les endroits et la maison, la fameuse maison qui a été prise de force par Sharon à un certain moment, les limites où on doit changer de comportement, parce que moi j'ai l'avantage d'aller de deux côtés de la ville, et je sais, je vois le mur invisible au moment où je dois passer de la partie dite arabe ou dite musulmane ou dite chrétienne à la partie juive, et qu'il faut être un peu plus raide quand on passe de l'autre côté pour qu'on passe comme touriste et non pas comme un arabe.
Monsieur Mami,
bon, il y a de tellement de choses à dire.
Absolument.
Mais moi j'aurais une ou deux questions.
Oui, mais gardez-les, tranquille.
Non, mais
on a la pub là.
Pour Ziad, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent le quotidien, parce que c'est le quotidien qui est le plus important.
Et ils peuvent nous appeler, et d'ailleurs ils sont très nombreux, hein. Sachez-le, cher Ziad, à vouloir vous parler. 01 40 33 9000, Ziad Medouk. Oui, Ziad Medouk, celui que vous connaissez, que vous entendez à des moments tristes, et c'est souvent malheureusement, pour nous parler de Gaza, pour nous parler de la situation, de ce qui s'y passe, et tu es parti, il y a des bombardements encore en cours à Gaza. Ziad Medouk est avec nous et en studio sur France Maghreb 2, il arrive tout droit de Gaza, il est à Paris aujourd'hui et à France Maghreb 2, à tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous aujourd'hui avec Tarek Pamy, Audrey Pronosti et notre invité d'honneur, monsieur Ziad Medouk, qui vient d'arriver de Gaza sur France Maghreb 2 en direct. C'est le premier rendez-vous là, tu viens à peine d'arriver à Paris, Ziad, c'est France Maghreb 2, ça y est.
Question de remercier France Maghreb pour son rôle, parce que vous êtes un média vraiment, une chaîne de radio très objectif, très honnête, très correct, et au niveau de la couverture médiatique des événements en Palestine, en général et dans la bande de Gaza, vous montrez la réalité telle qu'elle est, et j'encourage tous les médias français à faire comme vous, ça veut dire...
Ils sont très silencieux les médias français, Ziad, hein, sur Gaza, sur la Palestine en général.
Ils sont complices avec la propagande israélienne, parce que souvent ils disent que Israël, c'est l'autodéfense, donc c'est malheureux quand trois jours d'horreur, 200 raids israéliens, trois écoles détruites, donc 25 habitations civiles détruites, 34 morts, 200 blessés, donc et après aucun blessé israélien, et à la fin c'est toujours les communiqués, soit officiels soit les médias internationaux, ils disent que Israël riposte un missile. Moi je vis à Gaza et donc je connais c'est quoi un missile israélien, c'est quoi un raid israélien et c'est quoi un missile palestinien. Donc
petite question d'ailleurs avant que de laisser la parole à Tarek Pamy et à Saleha aussi qui nous attend au 01 40 33 9000, comment vous savez, par quoi vous êtes averti quand il va y avoir bombardement sur Gaza? Comment ça se passe? Vous n'êtes pas averti? Vous entendez les bruits? Enfin, dites-nous, j'ai une question toute bête, hein, finalement.
Écoutez, vous avez le droit de poser des questions. Avant de répondre à ta question, je vais dire quelque chose. Quand il y a un bombardement israélien, donc il bombarde, c'est arbitraire, on bombarde partout, tu vois. Et pour vous dire et répondre à toutes les questions, soit des journalistes, soit du public, le courage de ces Palestiniens de Gaza, quand il y a un bombardement israélien, trois minutes après l'arrivée de bombes, même s'il y a le risque, Il y a des centaines, voire des milliers de gens qui sortent de chez eux pour aller sur le lieu de bombardement. Voilà ce courage. Par contre, quand il y a un missile qui n'est pas très fort palestinien de Gaza, un missile palestinien lancé, ça, le droit de réponse palestinien à la résistance militaire est légitime. Quand un missile tombe dans une localité, 3 jours, aucun Israélien ne s'approche de ce lieu pour vous montrer le courage de ces Palestiniens. Oui. Même si après chaque bombardement, il y a un autre bombardement israélien dans le lieu, mais tout le monde va, parce que vous avez posé la question sur la santé, pas seulement les secouristes, les médecins, mais il y a la population qui va sur place pour aider à sortir donc les victimes de ou les blessés ou les morts donc des combres. Donc ça montre un peu le courage de ces Palestiniens. Donc voilà, je pense que Christophe, ouais. Je vous écoute. Oui.
Alors Saliha est avec nous. Avant d'accueillir, avant de laisser la parole à Tarek Pamik, il y a plein de questions. Saliha, bonjour.
Les auditeurs sont prioritaires. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Monsieur Ziad. Mais donc, franchement, je salue son courage et le courage des Palestiniens qui résistent. Franchement, c'est un exemple qu'il donne à tout le monde entier. Une résistance qui dure presque un siècle. Un siècle, il n'y a aucun peuple qui a résisté. Franchement, avec la souffrance qu'il peut y avoir, avec des morts, des blessés, avec la faim, la soif, franchement, c'est un peuple extraordinaire et dans le monde, vous pouvez chercher, vous ne trouvez pas un peuple pareil qui résiste. Et moi, je leur souhaite franchement de tout cœur, je sais pas à quoi, franchement, mon cœur, si je peux l'enlever et leur donner, c'est quand même formidable, voilà. Ça, dans un premier temps. Le deuxième temps, j'ai entendu votre auditeur précédent qui disait « Que peut-on faire ?» Franchement, mais quelle question qu'on peut poser comme ça. Déjà, avoir une pensée tous les jours et tout le temps, et à chaque moment, quand on est chez soi, quand on mange, quand on marche. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si M. Mohamed ne sait pas quoi faire, adressez-vous à Capjipo Europalestine. Il y a beaucoup des actions qu'on fait. Il y a des actions qu'on fait. Mais il nous faut des bras, il nous faut de l'aide, il nous faut beaucoup de gens. Alors, approchez-vous, Monsieur Mohamed. Il y a aussi parrainer un enfant, quand même. C'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est de me donner 20 euros par mois, 30 euros, terre humanitaire. Avant, c'était CBSP, mais l'entité sioniste a fait tout pour justement que ça soit fermé, mais ils ont pu réussir.
Non, c'est pas fermé, madame. Madame, c'est pas fermé. Ça s'appelle humanitaire, tout simplement.
C'est sérieux, terre humanitaire. C'est sérieux. Vous pouvez aussi. Alors donc, mon appel, pourquoi j'ai appelé, il y a ça. Et demain, il y a justement un rassemblement. Absolument. À la Fontaine des Innocents à Paris, le métro Châtelet les Halles. Et souvent, on est là, souvent on fait des rassemblements, hein, une semaine sur deux, deux semaines sur deux. Mais franchement, souvent, mais on n'est pas nombreux. Voilà ce qu'il y a à faire, monsieur. Quand même, il faut le noter, hein, pour nos auditeurs, là. Notez que dans vos agendas, c'est une priorité, c'est pas aller faire votre sieste.
Merci Saliha, merci.
Bon, juste un mot, Saliha, ici à France Maghreb 2, la règle est que chaque personne, chaque auditeur, qu'il soit d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous, il a le droit de dire ce qu'il pense. Et moi je trouve que Mohamed est dans la sensibilité primaire de celui qui est dans une panique, qui sait que la cause palestinienne et Gaza est juste, et qui voudrait, j'allais dire par conscience, dire moi petit Mohamed ou moi grand Mohamed, qu'est-ce que je peux faire.
Exact.
Donc on ne peut pas lui reprocher. Non. Pourquoi il pose cette question? Parce que comme on dit partout dans la philosophie, j'aime pas utiliser moi la religion, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent pas, et on ne peut jamais reprocher à celui qui ne sait pas de vouloir savoir, puisqu'il pose la question pour savoir.
Il y a Ziad qui est là.
Merci à Mohamed.
Pour revenir à Saliha, d'abord merci beaucoup pour sa bonne volonté, et vraiment il est en train de donner des pistes, mais comme je viens de dire, nous, toute forme de solidarité, elle est bienvenue. Mais moi, comme Palestinien de Gaza, on préfère toujours la solidarité morale, on préfère toujours les diffusions des médias. Pour Kabijpo, donc, moi j'ai un colloque demain, si je termine tôt, je viens manifester donc à Châtelet, et le 29, si je serai toujours à Paris, parce que je ne connais pas encore mon programme, je vais à La Haye avec les solidaires de bonne volonté pour mettre la pression sur le procureur donc de la Cour pénale internationale pour les crimes contre Gaza. Donc, à mon avis, toute forme de solidarité, donc est bienvenue. Il faut jamais critiquer les autres. Donc, comme nous en Palestine, on est divisé. Le mouvement de solidarité est divisé. Et donc, je pense, la chaîne France Maghreb, c'est une chaîne fédératrice. Donc, il peut regrouper. Et je vois à travers votre page Facebook, votre chaîne, je pense que vous faites un travail remarquable. Vous attirez les gens de bonne volonté. Surtout, comme l'a dit Tarek, c'est la liberté d'expression qu'on doit encourager.
Absolument.
Alors en fait, les Gazaouis, et excusez-moi cette beauté, boutade, c'est un peu comme Confucius et les Chinois, ils disent aux gens, apprenez-nous à pêcher, et ne nous amenez pas tous les jours un poisson, parce que le jour où vous amènerez pas le poisson, nous on va mourir de faim. Alors que si vous nous avez appris à pêcher, nous pourrons pêcher par nous-mêmes. Et donc c'est ça la solidarité dont les Palestiniens et les Gazaouis ont besoin. Solidarité morale. Il faut que la voix de Gaza soit dans la tête des gens, dans les expressions, dans les mails, dans les échanges, de manière à ce que l'occupant colonialiste, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ce qui se passe aujourd'hui, ne croit pas que la cause est morte et la cause est terminée. J'ai lu, moi, il y a 3 jours, dans un journal israélien, une espèce de chronique, en tout cas un journaliste, qui parle d'un pilote de chasse israélien qui dit « Je vais bombarder en Syrie, en Irak, et les troupes iraniennes en Syrie, et je rentre sans regarder derrière moi. Mais chaque fois que je vais bombarder Gaza, en partant, je regarde s'il n'y a pas un missile derrière. » C'est-à-dire que il dit, ces gens-là, ils n'ont rien, et ils osent riposter, alors que les autres, ils ont ce qu'il faut, ils ne ripostent pas. Et c'est peut-être ça la clé de la question, cher Christophe, que vous avez posée tout à l'heure à Ziyad. Comment expliquer, comment sont les Gazaouis? Les Gazaouis appartiennent à une race humaine un peu comme les Vietnamiens dans les années 70. C'est-à-dire qu'ils savent que leur cause est juste, que la détermination de l'histoire leur donnera tôt ou tard raison, et donc pour ça, il faut qu'ils continuent à se battre. C'est Shamir, ou c'est, je sais pas si c'est Shamir, en tout cas, ou c'est Golda Meir qui disait, laissez-les pleurer, les Palestiniens, c'était en 48. Les présents vont mourir. Golda Meir, les présents vont mourir. Les petits jeunes, ils vont oublier, et on va enterrer son dossier. Or, il se trouve que les jeunes Palestiniens.
Ils sont un peu plantés, là,
pour les jeunes Palestiniens nés après les accords d'Oslo sont les Palestiniens les plus résistants que la Palestine a jamais connus.
Qui mène, voilà, la révolte.
On accueille, avec nous, monsieur Amar, qui nous appelle de région parisienne. C'est ça, Amar?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bonsoir, Amar.
Oui, salam alaikum, Ziad Mouzouk.
Salam.
Oui, bah écoutez, ça, moi, j'ai honnêtement, là, le fait de parler avec vous, c'est un honneur.
Tout le plaisir pour moi.
Parce que pour la Palestine, nos enfants, on les a éduqués à aimer la Palestine, et puis vous êtes des hommes qui tenez debout. Hein. Par contre, il y a une chose, j'ai posé la question, c'est j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à survivre à tout ça.
Comment vous arrivez à quoi?
À survivre à tout ça.
À survivre, d'accord.
Avec l'armée, Israël, tout ce que vous subissez, c'est incroyable, moi. J'arrive pas à comprendre un peuple de, comment dire, avec toutes l'oppression qu'ils subissent tous les jours, ils arrivent à survivre. J'arrive pas à comprendre.
Ah, bah, Ziad a un peu répondu tout à l'heure, mais il va bien.
Non, voilà. je vais répondre avec une anecdote. D'abord, merci beaucoup pour la question.
Merci, Amar.
Donc, je pense que les éditeurs de France Maghreb montrent une fois de plus, leur attachement à la paix, à la justice. Il y a une chose très importante ici, que pour les Palestiniens de Gaza. C'est comment arriver à vivre, d'accord. Donc avant Christophe, donc il y a une phrase que me gêne un peu. Il faut jamais dire c'est un honneur. Voilà, moi je suis un simple citoyen palestinien. Donc il faut jamais dire c'est un honneur d'être avec nous, les deux tueurs, vous-même. Donc voilà, je suis ici pour débattre, pour échanger, pour parler de la réalité. Donc je vais commencer par une anecdote. Nous par exemple, nous avons de 3 à 4 heures d'électricité par jour. Pourquoi?
Voilà, 3 à 4 heures. Hein.
Parce que la centrale électrique, il était bombardée.
En 2014, c'est ça?
Depuis 2014, et il était réparé partiellement. Donc,
et avec rationnement d'énergie.
Et avec l'énergie de fuel qui entre pas à cause de blocus aérien. Donc voilà. Donc quand soit on quitte Gaza, soit quand on a davantage d'électricité, on est un peu surpris. Ça veut dire, nous, on a l'habitude d'avoir 4 heures. Donc, quand on a 5 heures, au moins, quand je sors en Égypte ou ici, où je vois qu'il y a 24 heures, ouais, je suis un peu étonné. Donc, ouais, vous voyez un peu, donc, ça montre un peu qu'on a l'habitude à vivre dans cette situation difficile, mais malgré ça, c'est ça notre force. Comme l'a dit Tariq, la force des Palestiniens ici, c'est la souffrance, c'est l'endurance, donc c'est la patience, la détermination, c'est aujourd'hui Gaza. Et donc, il y a maintes exemples pour parler de cette volonté de vivre, d'exister, de persister et de résister, voilà, en Palestine. Donc ça, comment vivre en Palestine. Donc c'est inimaginable. Ça veut dire que c'est très difficile de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Gaza, surtout, d'imaginer comment vivent les Gazaouis. Donc les Gazaouis, ils vivent, ils résistent, ils persistent. Voilà. Donc la réalité est dure. Donc il y a 1000 exemples de montrer la souffrance, le blocus, la fermeture de frontières, le chômage, la pénurie, les attaques, les agressions, le mort. Voilà. Mais il y a une vie. La vie, c'est ça le plus important. Comme je viens, comme j'ai dit au début, Gaza, c'est une ville contradictoire. Ça veut dire il y a tout et il n'y a rien. Et les gens, ils vivent.
Il y a quelque chose d'essentiel qui nous fait tenir. C'est justement le mot que vous reprenez souvent, c'est l'espoir.
Oui, c'est l'espoir, c'est la vie, c'est ça. Parce que les gens, ils ont perdu espoir. Ils ont surtout pour les jeunes, il y a une absence de perspective. Mais il y a ici la réalité. C'est avec l'espoir aujourd'hui que les Palestiniens, elles gardent espoir pour l'avenir. Et pour garder cet espoir, il faut résister, il faut persister, il faut avoir une résilience. Et c'est ça aujourd'hui, les Gazaouis, qu'ils ont rien, mais qui gardent espoir pour l'avenir, un avenir meilleur, et surtout un avenir de paix, mais une paix dont la justice avant tout.
3-4 heures d'électricité par jour, vous avez bien entendu mes amis, hein. Ça veut dire que vous passez la majeure partie du temps sans électricité. Donc quand il y a de l'électricité, il faut recharger les téléphones, il faut recharger tout ce qu'il y a à recharger, il faut en profiter pour manger. Comment vous faites une question toute bête. Pour faire cuire à manger, comment on fait?
Donc d'abord on commence par l'électricité. Donc quand il y a l'électricité, quand il y a 4 heures, parce que nous on n'a pas les horaires, quelquefois le matin, quelquefois la soirée.
Ah, c'est quand ils veulent en plus.
Donc on peut dire qu'il y a un état d'urgence partout dans chaque foyer. Ça veut dire nous quelquefois on a l'électricité entre 2h du matin et 6h du matin.
Alors, donc, plus
tout le monde se réveille pour charger le portable, moi pour préparer mes examens, mes cours à l'université, les enfants pour réviser, pour cuisiner, pour la machine à laver. Donc voyez un peu, donc ça c'est, il y a une adaptation avec le contexte. Ça c'est un, pour manger justement, il y a une adaptation. Donc c'est, voyez, ça veut dire mieux de manger 3 repas, on mange un repas par jour, 2 repas par jour. J'ai une autre anecdote, et ça surtout dans les heures difficiles, les moments difficiles, soit en 2014, même maintenant. En 2014, chaque foyer à Gaza, surtout les gens qui habitent au centre, parce qu'il y a les gens, les zones frontalières qui étaient touchées, dévastées par les bombardements israéliens, et les gens, ils viennent vivre chez leurs proches, leurs familles, d'accord? Donc, les maisons toujours accueillantes. Ça veut dire, nous, au centre de la ville de Gaza, on a accueilli 80 personnes, ça veut dire soit de nos familles, nos proches, nos amis. Donc c'est ça la tradition. Donc les Gazaouis sont très généreux. Donc ils ont rien, mais si vous allez venir un jour chez un Gazaoui, il va vous offrir tout. Donc ça c'est important. Et pendant la guerre de 2014, même dans des moments difficiles, toujours dans chaque foyer, on arbitre des autres familles comme ça. Et imaginez, et c'est ça le courage des femmes palestiniennes. Elle arrive déjà pour ses 5 enfants. Quelquefois, elle trouve des difficultés. Mais quand il y a 80 personnes dans la même maison, elle arrive à se débrouiller, à préparer à manger pour ces 80 personnes. Voyez un peu, c'est ça aujourd'hui la Palestine. C'est l'adaptation avec le contexte. C'est ça, c'est important de le dire. Donc, pénurie d'électricité, pénurie des médicaments, pénurie de nourriture. Mais il y a... C'est pour cela, moi, je pense que la solidarité morale est très importante. Parce que les besoins énormes. Les gens qui proposent, par exemple, de parrainer des enfants palestiniens orphelins. Ça, c'est important, d'accord? Les gens qui envoient des projets. Tout cela, c'est important, mais c'est pas l'argent qui compte, parce que les besoins sont énormes. Et je pense que les individus, et c'est ça, nous, on a besoin de renforcer, parce que s'il y a une solidarité magnifique en France, au niveau de réseaux sociaux, c'est solidaire de bonne volonté, ils peuvent créer...
Tu fais bien de préciser les réseaux sociaux, hein.
Voilà, ils peuvent faire pression sur leurs députés, sur leurs élus, ils peuvent signer des pétitions, ils peuvent manifester, c'est ça le plus important. Donc, c'est ça, parce que envoyer l'argent à Gaza, les besoins sont énormes, donc, mais il y a des organisations internationales qui s'occupent de ça, il y a l'ONU, voilà. Mais pour des projets individuels, c'est difficile. Mais le plus important pour nous, c'est la solidarité morale, c'est les rassemblements, c'est ça le plus important. Parce que, en fait, nous, les Palestiniens, en général, les Palestiniens de Gaza, presque on a perdu tout. On a perdu la famille, on a perdu la maison. Il nous reste seulement la résistance. Nous comptons sur 2 choses. Parce que, malheureusement, les dirigeants arabes ne nous aident pas. L'Europe, au nom des droits de l'homme, il ne fait rien. Les Nations Unies et les États-Unis sont complices avec les Israéliens. Nous, il nous reste 2 choses. La résistance sur place et la solidarité internationale. C'est pour cela nous on apprécie beaucoup la solidarité internationale qui est un élément très important. Ça veut dire quoi solidarité internationale? Ça veut dire quand moi je suis sous les feux, il y a des gens soit sur par téléphone, soit par internet, soit sur les réseaux sociaux qui appellent, qui envoient des messages de soutien, de sympathie. Et ça c'est important.
Ça aide à tenir.
Voilà, ouais. Et c'est ça. Donc c'est pour cela, nous on voit de plus en plus que il y a, contrairement aux gens qui disent que vous êtes oubliés, non, on sent qu'on est de plus en plus soutenu par une solidarité sociale, solidarité civile, de plus en plus renforcée. Et c'est ça, je pense, qui nous aide à résister, nous les Palestiniens en Palestine.
Alors, on va accueillir Myriam qui est avec nous. Bonjour Myriam, vous nous appelez d'où Myriam?
Bonjour Christophe, bonjour à toute votre équipe, j'appelle de la Marne.
Très bien, ah dans la Marne, très bien, t'as déjà eu l'occasion d'y aller Ziad, Reims, tout ça par là?
Oui, oui.
Oui, très joli hein. Myriam, on vous écoute.
Oui, alors bah, j'écoutais très attentivement ce que nous disait Ziad, de l'importance de cette solidarité, surtout morale. Donc nous c'est vrai que de là où on est, on a l'impression que voilà les années passent et qu'il pour le coup, il se passe pas grand chose et que le peuple palestinien se meurt à petit feu. Et on se sent vraiment démuni et on est toujours dans cette interrogation éternelle. Pourquoi il n'y a pas de réaction sur le plan du droit au niveau international, de sanctions économiques ou politiques comme il y a pu y avoir pour d'autres pays, l'Irak, la Syrie, la Russie, enfin plein de pays qui, à un moment donné, on a estimé qu'ils n'étaient pas dans le droit. Il y a des sanctions qui sont tombées. Et puis, pour la Palestine, c'est le grand blanc. Ma question à Ziad, c'est quelles sont les actions au niveau international, autres que les organisations humanitaires, je dirais plus des États qui peuvent évoluer vers des sanctions qui poussent Israël à un moment donné permettre au peuple palestinien de revivre à nouveau.
Ouais, il a un peu répondu auparavant, hein, Ziad.
Ne vous inquiétez pas, Mariam. Donc, un jour, tout va changer. Donc, c'est vrai.
Va changer, Ziad?
Parce qu'on a beaucoup d'exemples de l'histoire. Donc, regardez, Nelson Mandela, il est resté 35 ans dans la prison et malgré ça, donc, le système d'apartheid, il était abattu. Donc, un jour, parce qu'il y avait une volonté. Donc, le boycott, c'est un arme très important à utiliser pour dire non à l'injustice. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'actions, soit au niveau société civile, soit au niveau des États. Donc, il faut garder espoir. Donc, il y a toujours un changement, il y a toujours une évolution. C'est vrai, la conjoncture actuelle, surtout dans les pays arabes, donc, que les pays arabes qui vivent une situation dramatique, notamment le Yémen, la Syrie, le Libye, et quelquefois un processus violent comme ces pays, quelquefois un processus démocratique, heureusement comme la Tunisie, mais ou l'Algérie avec le Hirak. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est ne pas perdre espoir. Il a dit, Mariam et les autres éditeurs, ils ont dit, ça fait 70 ans. Et beaucoup de gens, ils m'interrogent, ils me disent, ça fait 70 ans. Et après, donc voilà, nous sommes convaincus, et c'est ça la force des Palestiniens aujourd'hui, ils sont convaincus qu'ici, notre terre, nous ne partirons pas. Ils vont nous massacrer, nous écraser, nous tuer, nous blesser, mais nous détruire, mais ils vont jamais donc nous arracher de notre terre. C'est ça aujourd'hui la force des Palestiniens. Les Palestiniens, ils ont décidé de rester, de ne pas partir. Donc vous voyez, chaque agression, même les Israéliens, ils sont étonnés. C'est la cinquième puissance militaire. Voilà, ils n'arrivent pas à arrêter des missiles qu'ils n'ont pas. Les missiles, moi je vis à Gaza, vous voyez, donc les missiles n'arrivent même pas, donc ils n'ont pas, ce ne sont pas des missiles, ce sont des fabrications traditionnelles, ça veut dire avec leur intelligence, avec leur capacité, ils ont développé donc des missiles qui touchent des localités israéliennes. Donc les bombardements israéliens, ils font des milliers de morts, et les missiles, rarement qui font des morts, des blessés. Malgré ça, ils ont peur d'un missile. Donc, ça veut dire, eux, ils ont des abris, nous, on n'a pas d'abris. Vous voyez un peu, ça montre un peu. Donc, pendant les 3 jours de cette nouvelle agression israélienne, presque 10 millions d'Israéliens étaient dans les abris, surtout, et même le gouvernement israélien, même Netanyahu, même le ministre de la Défense, même tous les généraux israéliens étaient dans l'abri, ils ont peur d'un missile. Et nous, on était sans abri, et nous, on recevait jour par jour, minute par minute, seconde par seconde, les missiles, les bombes. Vous voyez un peu, c'est ça la différence, c'est ça le courage. Donc, vous voyez un peu.
Par avion, souvent, hein. Ça se passe par avion.
Oui, par avion, ouais. Par des chars comme ça, des bombardements.
Quand on est là, on est jusqu'au bout. Hein.
Oui, c'est, vous voyez un peu, le plus important aussi de montrer qu'il y a une courage, il y a une patience, une détermination palestinienne. C'est ça qui essaye. Ouais. Voilà, regardez par exemple la marche de retour. La marche de retour, tous les vendredis, ce vendredi, à cause des événements, il a été repoussé à la semaine prochaine. Donc, vous voyez un peu, tous les vendredis, 10 000 à 15 000 personnes, ils vont sur les frontières pour défier. Ils défient les soldats israéliens qui se trouvent à 500 mètres par les drapeaux palestiniens dans la main et par leur poitrine nue. Et malgré ça, les snipers israéliens, ils tirent, ils tuent, ils blessent. Et malgré ça, chaque vendredi, il y a 120 amputés en un an et demi, presque 30 000 blessés, 320 morts. Et malgré ça, voilà, donc c'est ici, voilà, c'est notre droit. Ils continuent à fréquenter ces marches de retour pour dire non à l'injustice, pour dire non au blocus et pour montrer que le droit au retour est un droit sacré pour tout un peuple palestinien.
17h18, vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec Ziad Medouk qui est avec nous, Audrey Pronosti, Tarek Mami et Mou, amis auditrices, auditeurs. Tellement il y a des appels, là j'ai dû fermer temporairement le standard parce qu'il faut qu'on profite aussi de Ziad pour lui poser nos questions à nous. Dans un instant, on s'arrêtera à une actualité qui sera chez nous, s'est passée dimanche dernier, retour sur cette marche contre l'islamophobie. Tu suis un petit peu d'ailleurs ce climat un petit peu tendu qui est ici présent en France où d'être bien musulman, sûr. C'est pas franchement facile en ce moment, hein, avec cette tempête médiatique et politique aussi. Et il y a eu un grand rassemblement dimanche dernier à Paris. Et Audrey Pronosti nous a fait un petit texte, comme à son habitude, qu'elle nous livrera dans un instant. Et Ziad pourra nous donner aussi son avis, hein, parce qu'il regarde de très près ce qui se passe aussi ici à Paris.
Bien sûr.
À tout de suite sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous. Il est avec nous aujourd'hui en direct sur votre radio France Maghreb 2. Il s'appelle Ziad Medouk, donc il nous vient de Gaza. Il est arrivé fraîchement aujourd'hui, mesdames, messieurs, et il nous fait l'amitié, le plaisir de passer par France Maghreb 2 pour nous parler de Gaza, évidemment. Je rappelle, alors Ziad, si je ne dis pas de bêtises, tu es professeur de français et directeur du département français de l'université d'Al-Aqsa à Gaza, c'est ça?
Poète, écrivain d'expression française, moi je préfère toujours... Oui, je viens de sortir un livre, Être non violent à Gaza, mais je préfère toujours me nommer un simple citoyen de Gaza.
Un simple citoyen de Gaza.
Qui vit le blocus, la fermeture de frontières, les bombardements, les agressions.
Tarek, oui. Mamie, que vous avez été plusieurs fois, vous l'avez dit tout à l'heure, en Palestine, quand Ziad nous raconte Gaza, finalement, ce sont une réalité que vous avez... vous aussi connu
Alors, j'ai connu, c'est beaucoup dire. Moi, j'ai eu le choix d'y aller en délégation officielle. Donc, j'ai vu comment on fait en 15 minutes dans une voiture privée confortable par une autoroute à gauche, comme dit l'autre, entre Jérusalem, Al-Quds et Ramallah. Et ça semble à côté, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un jeu de pierre. Et j'ai fait le même de distance exprès tout seul avec le bus palestinien où je mettais 4 heures, 6 heures, 2 heures selon la volonté. Des soldats israéliens et alors un soldat chrétien et israélien qui sort, il peut arrêter un bus 10 minutes comme il peut arrêter 3 heures sans que vous puissiez dire quoi que ce soit. Et peut-être que la plus marquante expérience que j'ai eue, c'est moi j'étais donc une première fois pour la signature des accords d'Oslo, j'étais la deuxième fois pour l'enterrement de président Arafat. J'étais le seul journaliste occidental venant de France quoi, à être passé. En fait, quand je suis passé, la consigne n'avait pas encore donné à la frontière de la Jordanie pour bloquer tous les entrants. Mmh. Et donc je suis arrivé et un jour un grand journaliste de Paris Match à Paris m'interpelle, il me dit excuse-moi, on était à l'Assemblée nationale française, il me dit excuse-moi, est-ce que je peux te poser une question? Je dis voici. Il me dit t'as été toi à l'enterrement d'Arafat? Je dis oui bien sûr. Il me dit tu sais, moi j'étais dans la voiture qui était derrière toi, je t'ai vu monter dans ta voiture, passer, et je dis bon, le journaliste est passé, je suis derrière, il m'a dit moi je suis jamais rentré en Palestine et donc à Gaza. Et j'ai vu que les gens, les Palestiniens, chers Christophe, pour aller à Ramallah, donc de la frontière jordanienne, m'ont remercié. Parce que chaque fois qu'on arrive à checkpoint, moi je sors ma carte de presse, l'armée et le militaire israélien vient me voir, je lui explique que je viens de Paris pour l'enterrement, ben il dit allez passer, et les Palestiniens me disent monsieur Barakallahu fik, c'est la première fois qu'on fait cette distance en quelques minutes, normalement ça nous prend une bonne dizaine d'heures, parce qu'à chaque fois on attend 3 heures. Et l'armée israélienne, sur le dernier checkpoint avant qu'on rentre à Ramallah, a même fait venir j'allais dire un trax ou un engin pour faire enlever les grosses pierres qui ont été installées pour empêcher le Palestinien de rentrer à Ramallah pendant 24 heures. Donc voilà ce que c'est. Moi, je souhaite poser des questions pratiques, une ou deux, à Ziad pour les auditeurs, parce que moi, j'ai fait les trajets. Moi, je suis rentré par les trois côtés, comme dit l'autre, par la Jordanie, par l'Égypte, par le ciel, donc je connais. Mais vous, vous sortez par où, cher Ziad? Vous passez par l'Égypte, par la Jordanie, ou vous prenez l'avion?
Écoutez, pour...
cette fois-ci, au moins.
Voilà, pour un Gazaoui, un Palestinien de Gaza, pour pouvoir sortir, il a deux possibilités. Avant la deuxième intifada, il avait trois possibilités. Ça veut dire qu'il pouvait, à l'époque, utiliser l'aéroport Ben Gurion, à Tel Aviv, et passer soit par la Jordanie, via Amman, soit passer par l'Égypte. Mais le plus pratique, le plus facile, le plus accessible, c'est par l'Égypte. Or, le passage de Rafah, c'est le seul passage qui relie la bande de Gaza, parce que côté israélien, c'est impossible après 2000. Et côté jordanien, le problème, les Jordaniens, elles vous donnent l'autorisation, mais les Israéliens ne donnent pas. Donc, il faut passer par deux, il faut avoir deux autorisations, jordanienne et israélienne. Quelquefois, vous aurez l'autorisation jordanienne sans les Israéliens, et quelquefois, les Israéliens sont, ou les Jordaniens sont les Israéliens, soit les Israéliens sont la Jordanienne. Donc, pour les Palestiniens de Gaza, ils sont obligés à passer par le passage de Rafah.
Rafah, donc, sortir
voilà,
par l'Égypte.
Par l'Égypte. Donc, comme j'ai fait, hors la situation.
Et comment vous sortez? Vous sortez dans une louage, dans une voiture publique, dans une voiture privée? Pour non, quitter non, cette frontière.
Avant, il faut déjà sortir de Gaza, parce que le problème, le passage, il ouvre seulement 3 à 4 heures par jour.
D'accord.
Donc, c'est toujours lié à la situation au Sinaï, donc au nord de l'Égypte, au sud de la bande de Gaza, où il y a une situation explosive, où l'armée égyptienne est donc, elle est très présente là-bas. Donc, il y a des barrages militaires. Et donc, pour pouvoir sortir, on met entre 24 à 48 heures pour sortir et pour revenir 3 jours, parce qu'il y a beaucoup des barrages militaires égyptiens. Donc, voilà. Donc, mais pour pouvoir sortir de Gaza, il faut s'inscrire sur une liste. Donc,
voilà.
Donc, on a les autorités égyptiennes, elles donnent seulement l'autorisation à 250 personnes de sortir de Gaza. Donc, le pouvoir que j'ai à Gaza, il est coincé, parce que c'est difficile de faire une sélection, difficile de sélectionner 250.
250 personnes, c'est-à-dire par mois, par jour?
Non, par jour seulement.
Par jour.
Ça veut dire 4 ou 5 bus qui
D'accord.
sortent côté de Rafah égyptien, palestinien, vers le Rafah égyptien. Donc, maintenant, il faut s'inscrire de mois. Donc, la priorité, c'est pour les malades, les patients. Et ça veut dire qu'il y a 100 patients qui sortent par jour. Et le passage, il ouvre seulement de dimanche à jeudi. Il est fermé le vendredi et le samedi.
Vendredi, samedi, aucun moyen de quitter Gaza?
Non, non, aucun moyen. Voilà. Et maintenant, pour les 250, il y a une priorité. Donc les patients, les malades, et après il y a les étudiants, et finalement les conférenciers comme moi. Donc moi, pour pouvoir sortir de Gaza, je dois présenter le visa français, l'invitation officielle de colloque, de conférence. Après, ils vont me mettre sur la liste. Si je serai donc sur la liste, je peux passer après 2-3 mois. Après, quand tu arrives au passage, tu risques d'être affolé parce que ils peuvent fermer le poste à n'importe quel. Voilà. Si tu arrives ici à sortir de Gaza, donc tu as besoin de 24 heures pour arriver au Caire. Et après, tu vas prendre l'avion pour Paris, 4 heures ou 5 heures. Donc voilà, pour nous, 99% des Palestiniens de Gaza, ils passent par l'Égypte, par le Caire.
C'est un voyage de 4-5 jours quoi, pour venir à Paris.
Voilà, pour aller-retour, c'est ça, c'est difficile.
Et pour rentrer, c'est tout aussi difficile?
C'est plus difficile que la sortie, oui.
Ah, c'est encore plus difficile pour rentrer. D'accord. On va en reparler, Tarek Mami, avec Ziad Medou qui est avec nous. On va parler aussi d'un autre sujet qui nous concerne et qui concerne aussi Ziad, parce que je sais qu'il est très réseaux sociaux, Ziad. Il regarde ce qui se passe ici en France. D'abord la solidarité pour Gaza et la Palestine, mais aussi ce qui se passe notamment pour les musulmans. Et on a eu à vous parler de cette marche, et peut-être vous y étiez d'ailleurs, puisque vous étiez très nombreux, quelques dizaines de milliers. C'était à dimanche dernier à Paris. Et Audrey Pronosti nous a écrit un texte sur qu'elle va nous livrer tout de suite. Retour sur cette marche du 10 novembre dernier, c'était dimanche à Paris. Audrey Pronosti.
Ce 10 novembre-là, il pleuvait, mais tous étaient là, il ventait, mais voilà, il faisait gris et la foule arrivait bien au-delà. Ce dimanche-là, cette force commune ébranla les esprits haineux, cet événement les bouscula. Alors naturellement et bien tranquillement, la marche prenait place chaleureusement. Alors tout le monde s'était donné rendez-vous, un rendez-vous immanquable pour dire stop, voyez-vous. Venu en masse par milliers, venu dire stop et manifester, marcher pour ne plus se cacher, marcher pour ne plus ignorer. Les rangs ont commencé à gonfler d'une discipline coordonnée. Le mot d'ordre était donné. Islamophobie, avez-vous dit ? Oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Oui, dénoncer cette ignominie. Particulière, elle était cette communion. Populaire, elle était cette union. Spectaculaire, nous étions à l'unisson. Elle était belle, cette marche. Oh oui, croyez-moi, elle avait du panache. Il était temps de se dresser contre l'ennemi commun, l'identitaire qui divise au moment opportun, qui prône la haine du musulman comme un air nauséabond permanent. Alors tous étaient réunis, tous étaient là sous les intempéries, tous étaient venus dénoncer l'islamophobie, tous disaient stop à cette infamie, tout le monde était venu, tous y étaient parvenus. Elle était belle, cette marche. Oh oui, croyez-moi, elle avait du panache. La France était dans la rue, celle qui exprimait son refus, comme pour dire nous ne sommes pas des intrus. Un message de paix circulait, celui du respect, rien d'autre ne le parasitait. Alors motivés, regroupés et mélangés, le juif, le chrétien, le musulman ou l'athée étaient là tous ensemble tels des Français coordonnés, des membres d'une nation refusant de vivre cette violence. On chantait la Marseillaise ensemble avec éloquence. Et si cette marche aura permis un jour, une fois d'être unis, alors cela valait bien le coup de rester digne et surtout debout. Pour lutter contre une injustice qui mène la France vers le précipice, la force, enfin l'unité désormais bien présente, dira toujours stop à cette ambiance si pesante.
Audrey, pronostic pour cet avis tranché, donc sur retour sur cette marche qui s'est déroulée dimanche dernier à Paris, ce 10 novembre. Zia, tu suis un petit peu ce qui se passe en matière, j'allais dire d'attaque, alors c'est... rien de comparable évidemment avec ce que vous vivez à Gaza, hein, Zia,
bien entendu. Évidemment, donc comme professeur de français, moi-même et mes étudiants, donc on suit l'actualité en France et on suit les médias.
Quel regard vous avez sur cette actualité, écoutez, sur cette islamophobie que beaucoup ont dénoncé dans les rues de Paris dimanche dernier?
Je pense que j'ai deux regards. Le premier regard, donc ça c'est des affaires internes aux Français, donc moi je ne me mêle pas dans les affaires internes, mais... Ouais. Je suis de près, donc, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce que les médias parlent de la situation en Palestine. Et je suis de près, donc, les débats sur les chaînes CNews, BFM, RMC. Donc, voilà, je connais les journalistes, voilà. Donc, moi, je pense que, voilà, le débat sur le voile, la marche de 10 décembre, dimanche dernier, contre l'islamophobie, je pense que...
Voilà, 10 novembre, 10 novembre, pardon. 10 novembre dernier.
Donc, il y a une mobilisation, donc, ça montre un peu, je pense, que il y a une solidarité, il y a voilà, donc c'est sans entrer dans les détails, je pense que les Français d'origine musulmane ou des Français de confession musulmane, donc ils ont le droit de s'exprimer, ils sont des Français, ils ont l'institution française et je pense ils ont tous les droits à respecter dans cet état de justice. C'est pour cela, à mon avis, je pense que la France comme population, donc parce que nous le plus important pour nous c'est la population civile. C'est pour cela nous on suit de près les préoccupations des Français, donc la priorité pour la solidarité, mais on suit donc les préoccupations des Français quelle que soit leur origine et on apprécie beaucoup donc la solidarité de ces Français de bonne volonté, la population civile avec la cause palestinienne comme cause de justice.
Tariq Pamy, en un mot rapide, oui. Avant qu'on revienne à Ziad, vous n'êtes pas exprimé sur ce qui s'est passé dimanche dernier à Paris?
Je reviendrai la semaine prochaine parce que j'avais préparé un long papier. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la Palestine. Je dirais deux mots. Je dirais que, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que la marche de dimanche dernier était une réussite par la quantité. Qu'il y a deux éléments à prendre en considération et une interrogation à poser. Les deux éléments, c'est que les initiateurs de cette marche savaient qu'ils avaient besoin des hommes politiques de gauche, Mélenchon et autres, pour que les médias puissent regarder cette émission et cette initiative. Sinon, il y aurait eu pour moi quasiment le même nombre de marcheurs, sauf que les médias n'auraient pas parlé de cette marche ou l'auraient dénigré parce que les gens sont musulmans. Et de l'autre côté, les hommes politiques de gauche, Mélenchon et autres, ils savent qu'il y a un réservoir de voix à prendre et ils sont venus se greffer sur une initiative dans laquelle ils ne sont pas toujours d'accord, puisque les uns et les autres, mais je reviendrai la semaine prochaine, ont utilisé des mots durs contre le foulard, contre le voile et contre les musulmans. Mais ils se sont dit, on va se greffer sur ce mouvement et puis on verra bien pour les élections. Donc c'est une opération, j'allais dire gagnant-gagnant, perdant-perdant, une opération de dur dont on reviendra sur laquelle on reviendra la semaine prochaine, peut-être même plus. L'essentiel, c'est que pour le commun des Français, il a vu des citoyens français descendre dans la rue avec un drapeau français, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, avec la Marseillaise, qu'on soit d'accord ou pas, avec de Allahu Akbar, qu'on soit d'accord ou pas, avec une étoile jaune, qu'on soit d'accord ou pas. Ce qu'il faut, c'est que la société française a reçu un message qu'une partie de ses citoyens ne va plus aujourd'hui se laisser faire. Reste à trouver les moyens. L'objectif est déterminé et fixé. Il est partagé par tous. Reste les moyens à mettre en place, Christophe.
Dernière partie dans un instant, messieurs, dames. André Pronosti, Tarek Pamier et Ziad Medouk, notre invité aujourd'hui. On va faire un live Facebook sur France Maghreb 2. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pourrez voir donc directement Ziad en vidéo.
Oui.
Eh bien, vous pourrez lui poser. On vous lira les questions. Ziad, je sais que c'est un exercice difficile que je vais te demander. Mais comme il y a beaucoup de questions et qu'on t'a que très rarement dans nos studios, Ziad, je vais te demander d'être le plus concis, précis dans tes réponses. On se fait la troisième partie dans un instant sur France Maghreb 2, ne bougez pas.
France Maghreb 2.
LGF, le grand forum, on est en direct. Vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2 et on est en direct également sur Facebook France Maghreb 2. Voilà, vous voulez voir notre ami Ziad, il est bel et bien en chair et en os dans nos studios sur France Maghreb 2. Il est arrivé ce matin de Gaza. Et il est dans nos studios à Paris et ça nous fait grand plaisir. Audrey Pronosti, Tarek Mami, pour une question chacun. Moi, je me réserve la fin, si vous permettez, parce que j'ai des choses à demander à Ziad. Alors, Audrey, une petite question pour notre ami Ziad qui nous a déjà bien répondu à nos auditeurs. Et s'il y a des questions d'ailleurs sur Facebook, vous pouvez nous les envoyer en commentaire, bien sûr, sur la vidéo live en direct. Audrey.
J'en ai pas mal, mais au-delà de celles que j'avais déjà posées, moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est toujours la jeunesse concernant l'éducation. Tout à l'heure, vous disiez que voilà, le souci, c'est qu'il y avait un manque d'espoir pour la jeunesse, mais il n'empêche que voilà, il reste sur le territoire. Donc, comment ça se traduit au niveau de l'éducation? Comment les jeunes, en fait, se dirigent vers les études? Quelles sont les statistiques? Ça m'intéresse vraiment. Écoutez, et quels sont les débouchés aussi?
Écoutez, soit dans les écoles, soit dans les universités, il y a une volonté des familles de continuer à envoyer leurs enfants à l'école et à l'université. L'éducation est sacrée en Palestine.
D'accord.
Le taux de scolarisation dépasse 94% selon les estimations de l'UNESCO en janvier 2019.
Malgré les conditions.
Malgré toutes les conditions, y compris dans la bande de Gaza. Les conditions sont très difficiles. Une mère de famille en Cisjordanie, elle se lève à 3h du matin pour accompagner son fils à l'école. Parce qu'il y a le mur d'apartheid, il y a les colonisations, il y a les barrages militaires. Et même chose, elle revient à 14h pour le récupérer. À Gaza, il y a 60 élèves dans une classe détruite, dans une école détruite. Malgré ça, il y a une volonté. L'éducation est devenue une forme de résistance en Palestine.
D'accord.
C'est un enjeu pour l'avenir. C'est important. Je vous donne un exemple. Je suis un universitaire. On a vu qu'il y a des mères des familles qui vendent leurs bijoux pour permettre à payer les frais d'inscription. Ils sont très élevés parce que les universités palestiniennes, ils ne sont pas soutenus par l'État parce qu'ils ont un statut différent. Donc, ils ne sont pas publics. Donc, il n'y a pas un soutien de l'autorité palestinienne. Donc, les frais d'inscription permettent à payer les fonctions de l'université, les professeurs. Donc, les frais d'inscription, c'est autour de 600 à 1000 euros. Ils sont très élevés par rapport au niveau de vie. Mais voilà.
C'est quoi le salaire moyen, pardon, à Gaza?
Pardon?
Le salaire moyen?
C'est 200-300 euros donc par mois, mais les gens, elles arrivent à vivre, donc ça, il y a une volonté de
continuer. Et les frais d'inscription, vous dites, c'est 600 à 1000 euros.
600 euros par an, voilà. Et malgré ça, donc, parce que c'est une priorité pour l'éducation, ils ont compris, les Palestiniens, c'est l'enjeu de l'éducation.
D'accord.
Et les Palestiniens et leurs familles savent que après 4-5 ans passés à l'université, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de débouché parce que le taux de chômage dépasse 65% de la population civile. Et malgré ça, il y a une volonté parce que pour les Palestiniens, un diplôme dans la poche, ça veut dire c'est garder l'espoir pour l'avenir. C'est avec l'espoir qu'ils vivent les Palestiniens. Donc, l'éducation et les universités palestiniennes, ils ont compris cet enjeu. C'est pour cela Depuis 5 ans, on a le master et le doctorat dans presque dans toutes les universités. C'est pour cela, pour attirer les
incroyable.
Jeunes.
Incroyable.
Et c'est symbole de dignité
voilà,
aussi.
De dignité et de résistance. Parce qu'auparavant, les Palestiniens, ils vont à l'étranger pour préparer leur diplôme supérieur. Maintenant, on a presque toutes les spécialités et tous les diplômes supérieurs. Donc, pour faire attacher les Palestiniens et faire que les Palestiniens, les jeunes, soient résistés, donc on ouvre davantage de spécialités. Et ça montre un peu que l'éducation est sacrée en Palestine, est devenue une forme de résistance par la non-violence. Est devenu surtout un enjeu et un espoir pour l'avenir.
Tariq, mamie, avec Ziad Medouk en direct sur France Maghreb 2.
Alors Ziad, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Maghreb 2. Tu es chez toi ici.
Très
par
gentil.
Téléphone, par
l'accueil
Skype.
Est magnifique, merci.
Et physiquement. Moi, la question...
Avec les gâteaux de Samia, magnifique. Oui.
Voilà, moi, la question que je te pose clairement, c'est tous ceux qui sortiraient d'un ghetto, d'un piège, d'une zone fermée de guerre, n'aurait qu'une seule envie, c'est ne plus revenir dans ce piège, ne plus revenir dans ce ghetto. Or, les Gazaouis en général, et vous en particulier, dès que vous quittez Gaza, vous commencez à préparer le retour. C'est quoi le secret de cet attachement de cette terre, alors que les conditions de vie ne sont pas les conditions ni de Paris, ni de New York?
Non, parce que c'est question d'attachement à la vie là-bas, malgré tout. Je vais dire deux anecdotes. Mardi dernier, j'étais sur le passage. Donc, et ça commençait les nouvelles agressions, les bombardements qu'ils ont fait, 34 morts. Et donc, je voulais revenir à Gaza. Et les gens, ils ont dit, vous êtes fous, ça fait 2 mois que tu prépares ton voyage, le visa, l'autorisation. Après, tu vas revenir. Je lui ai dit, non, je peux pas laisser ma famille, les gens là-bas sur place. Donc voilà, je suis très attaché à Gaza. Il y a beaucoup de Palestiniens comme moi. Donc, je pense que le secret, c'est ça. Nous, je pense qu'il y a une responsabilité morale pour nous. Nous sentons qu'on a un rôle. C'est pour ça notre rôle, c'est là. Parce que si nous, on peut dire, entre parenthèses, donc les intellectuels, les écrivains, les professeurs, je tiens à remercier donc l'accueil ici magnifique de gens de bonne volonté. Donc chaque fois que je viens ici, je me considère comme un roi, des accueils gauche à droite comme ça. Donc les gens ici sont magnifiques au niveau de la solidarité ou de l'accueil, mais ma place c'est là-bas. C'est pour cela, je pense que nous avons une responsabilité morale. Donc on peut pas quitter et laisser la jeunesse seule. C'est pour cela, si chaque Palestinien quitte et a la possibilité de quitter, il peut quitter. Non, nous on a décidé de rester. C'est pour cela. Même si ça fait même pas 62 heures que je quitte Gaza me manque beaucoup et j'attends les jours voire les heures pour revenir et je vais donner un autre anecdote voire un cauchemar et ça c'est au niveau psychologique. Quand je suis à Gaza sous les bombes, je dors tranquillement, d'accord, mais dès que je quitte Gaza, j'arrive en Égypte, même en France, je dors jamais. Toujours à 2h du matin, je me lève avec les cauchemars de la guerre. Et ça, c'est un peu contradictoire. Vous voyez un peu, donc c'est ma place, c'est là-bas. Moi, je peux pas vivre. Je viens ici, en France, d'autres pays, seulement pour une période courte. Un mois maximum. Colloque, conférence, échange. Universitaire, mais après ma place c'est là-bas. C'est pour cela, ça c'est mon choix depuis longtemps.
C'est incroyable ce que vous nous racontez quand même, Ziad. C'est incroyable d'entendre ça.
Hallucinant.
Le livre, Ziad, c'est important aussi d'en parler parce qu'on en a pas parlé. T'as sorti un deuxième livre là?
Non, dixième livre.
Dixième, pardon. J'avais bien.
Voilà, donc presque chaque année, je sors un livre en français.
Parce que tu es poète, monsieur.
Voilà,
Ziad,
écrivain et poète d'expression française. Donc ça, c'est mon choix parce que je pense que la langue française m'a ouvert l'esprit et j'essaie un peu de communiquer. Et moi, j'utilise la langue française comme langue de poésie, langue d'amour,
ouais,
pour communiquer avec le monde et Dieu merci. Donc je remercie.
Alors, il s'appelle comment ce livre?
Donc, Être non violent à Gaza. Donc, c'est le dixième livre. Le premier livre est sorti en 2009. C'est un recueil de poésie.
Ouais.
Moi, j'ai sorti 10 livres, 8 en France, 1 au Québec et 1 en Algérie, 7 recueils de poésie, un livre de pédagogie, un livre sur l'agression israélienne de 2014, un bilan. Et le dernier livre, il est sorti donc le 2 novembre dernier. Il s'appelle Être non violent à Gaza.
Être non violent à Gaza, c'est édité chez qui?
Donc, l'édition, il s'appelle Culture Épée. Donc, c'est une édition associative et pouvez inviter, donc, l'éditeur.
Avec grand plaisir.
Parler de ce livre parce que je viens d'arriver, j'ai pas encore vu le livre, moi.
Christophe.
Oui, Tariq.
Je suppose que l'année prochaine, vous allez publier votre prochain livre en Tunisie. Pourquoi la Tunisie?
Pourquoi?
Parce qu'il y aura le sommet de la francophonie et j'espère qu'on se retrouvera.
Pourquoi
tous les deux
pas
là-bas pour faire une émission en direct de Tunis.
Si j'arrive à sortir de Gaza, bien sûr.
On vous fait confiance pour
sortir. Rien n'est évident pour un Gazaoui.
Juste pour que les gens comprennent, Ziad, là, bon, tu nous as expliqué avant la pub comment tu avais fait pour sortir de Gaza. Comment vas-tu faire pour rentrer, pour retourner à Gaza? Comment ça va se passer concrètement? Pour que les gens comprennent bien quand même la difficulté d'un Gazaoui. Quand il sort, c'est très difficile. Pour y revenir, c'est encore plus dur.
Écoutez, dans les cas normaux, nous, on a besoin de 7 heures seulement entre la ville de Rafah, palestinienne, qui se trouve à 40 km de Gaza. Et il y a 400 km entre la ville de Rafah, palestinienne, et le Caire, pour prendre l'avion. Donc, dans les cas normaux, on a besoin de 7 à 8 heures maximum pour arriver à l'aéroport de Caire. Après, on prend l'avion pour venir à Paris ou n'importe quelle capitale arabe ou européenne. Mais maintenant, il y a des opérations militaires. Donc, l'armée égyptienne est très présente au Sinaï. Et donc, il y a des barrages militaires. Et donc, c'est pour cela qu'on a difficulté de sortir. Donc, pour sortir, on a besoin de 24 à 48 heures selon la situation. Mais le problème, pour retourner, parce qu'il y a davantage de barrages militaires, et donc, minimum, on a besoin de 3, quelquefois 4 jours, pour 5 jours pour revenir. Donc, l'inquiétude pour... Voilà. Donc, vous voyez ici, quand j'arrive en France, tout va bien au niveau d'accueil, au niveau des échanges, des colloques, conférences, amis, donc solidarité, manifestations, rassemblements, émissions de radio, de télévision, mais l'inquiétude, c'est quand on arrive. Et malgré ça, donc vous voyez un peu, c'est pas facile pour un Palestinien de Gaza de supporter tout cela, soit à l'aller, soit au retour, mais c'est notre destin, donc on doit supporter. Moi, je pense que moi, je suis en train de faire mon devoir. Tous les gens, soit vous, soit l'éditeur, ils parlent que comment vous supporter. Non, parce qu'on a 4 formes de résistance en Palestine. On a la résistance politique, résistance militaire, résistance par la non-violence, résistance par l'éducation, résistance populaire, mais non, on essaye, moi personnellement, j'essaye de faire mon devoir. Et supporter l'insupportable, soit à Gaza, soit sur la route, de sortir ou de revenir, fait partie de notre résistance, de notre devoir de continuer à supporter cette situation difficile.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Ziad, peut-être une dernière question chacun.
Et Samia, pourquoi tu n'as pas posé de questions, Samia?
Samia, elle est très discrète, Samia. elle est en train de faire profiter aux spectateurs, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, hein, sur Facebook,
de cette
rencontre avec Ziad Medou qui est ici en direct sur France Maghreb 2 en direct, donc live.
Bonjour.
Sur Facebook, voilà, Ziad Medou qui est là, la preuve, elle est là, messieurs dames. Dernière question, Audrey.
Encore vis-à-vis des jeunes, non, mais vraiment je suis très focus par rapport à la jeunesse, parce que forcément c'est l'avenir d'un pays. Je voulais savoir comment ils s'engagent politiquement.
Ah, très bien ça. Est-ce que la jeunesse s'engage politiquement à Gaza?
Écoutez, ils sont moins engagés, pour être objectifs et francs, mais oui, ils sont résistants. Ça veut dire, voilà, ils sont davantage, ils sont solidaires d'eux-mêmes, de leur famille, voyons. Il y a un attachement à la famille, il y a un attachement au village, attachement à la ville, attachement à la société palestinienne. Donc, au niveau politique, donc, ils sont moins engagés dans les partis politiques, mais ils sont très engagés dans, et surtout, essayent d'exploiter les réseaux sociaux. On a davantage, on a des médias alternatifs, on a des réseaux sociaux, on a des pages que les jeunes, gérées par les jeunes, et qui font un travail remarquable. Et sachez que les responsables de Facebook, chaque jour, ils ferment minimum 1000 pages pour les Palestiniens dans toutes les langues, d'accord?
D'accord.
Ça montre un peu que ça gêne un peu les sionistes. Et
donc c'est leur façon à eux de faire de la politique.
Mais voilà, et surtout de résister. Ça veut dire quand quelqu'un, il filme une maison ou une école détruite et bombardée, il le met sur Facebook avec un commentaire. Et ça, on a vu avec la marche de retour, ça montre un peu qu'il y a un courage magnifique. Donc la jeunesse est toujours là. Il y a la désespoir, il y a quelques jeunes qui essayent de partir, mais la majorité, ils ont décidé de rester, même à côté de ruines de leur maison détruite.
Tariq Mami.
Alors moi, je suis auditeur de France Maghreb 2.
C'est vrai.
J'ai raté le début de l'émission et je vous repose donc la question rituelle. Comment faut-il faire pour aider aujourd'hui la Palestine en général et Gaza en particulier, cher Ziad?
Écoutez,
vous adressez aux auditeurs de France Maghreb 2, qu'est-ce qu'il faut leur dire?
Voilà, Gaza, elle a besoin de vous. Donc, Gaza, il est enfermé. Donc, je pense qu'il y a 3 propositions pour aider les Palestiniens en général et les Palestiniens de Gaza. La première chose, c'est essayer de renforcer la solidarité, surtout la diffusion de l'information. C'est important parce que malheureusement, les médias officiels ou officieux ici, ils sont complices avec la propagande israélienne. Donc, à mon avis, il y a des médias alternatifs. Il faut encourager les jeunes ici à créer des pages Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur beaucoup de profiter de réseaux sociaux pour parler. Et surtout aujourd'hui, avec l'ouverture sur Internet, donc c'est facile d'entrer en contact avec les Palestiniens, notamment les Palestiniens de Gaza, via Internet, via les réseaux sociaux, pour avoir des images, des photos, des statistiques sur la réalité. Donc ça, numéro un, la diffusion d'informations, c'est un élément très important. Deuxième chose, voilà, c'est participer à des manifestations. Beaucoup d'associations.
Demain, 15h, Fontaine des Innocents à Paris.
Voilà. Moi, j'essaie d'y participer si je termine tôt le colloque au Sénat, donc demain, parce que je suis invité, je suis venu à Paris pour participer à un colloque international sur l'apartheid israélien dans les territoires palestiniens, y compris dans les territoires de 48. Donc voilà, ça montre un peu, voilà. Donc, deuxième chose, c'est essayer de participer à des manifestations, parce que souvent, les gens, ils se plaintent qu'il n'y a pas beaucoup de monde, souvent 30, 40 personnes. Non,
c'est vrai.
Il faut toujours montrer, c'est comme les marches comme ça, il faut montrer qu'on est nombreux pour, voilà, c'est vrai, c'est facile devant l'ordinateur, devant Internet, devant les réseaux sociaux pour dire on est solidaire de Gaza, mais Gaza, il a besoin des choses concrètes, surtout au niveau de manifestations. Voilà. Et troisième chose, ce sont les échanges. Les Palestiniens de Gaza, parce que les Israéliens, ils veulent enfermer. Et ils sont en train d'enfermer les Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui ont 25 voire 30 ans, qui n'ont jamais quitté la bande de Gaza à cause de blocus, de fermeture de frontières. Mais, heureusement, grâce aux réseaux sociaux, Skype, et déjà, je tiens à remercier Christophe parce qu'on a fait deux Skype très intéressants au niveau des universités de Gaza sur le regard des médias français à la cause palestinienne. Il a fait deux interventions devant les studios du département des médias. Donc, il faut que, par exemple, les journalistes, les étudiants, voilà, il faut qu'on parle à Gaza dans les universités, dans les lieux, dans les hôpitaux, dans les médias, voilà. Donc, voilà, c'est important de garder le contact avec, voilà, il faut, et je pense que garder le contact et développer des échanges, ça sert à aider les autres. Ça veut dire les Français ici, ils vont avoir une réalité objective sur qu'est-ce qui se passe à Gaza. Et pour les Gazaouis, ils ont besoin de ces Français pour ne pas se sentir abandonnés, oubliés. C'est pour cela, la solidarité morale, la diffusion d'informations, la participation à des rassemblements, à des manifestations, signer des pétitions, interpeller les élus et surtout développer des échanges entre médecins français, médecins palestiniens, journalistes français, journalistes palestiniens, étudiants français, étudiants palestiniens. Je pense que c'est une priorité pour les Palestiniens. Et je pense, le dernier mot, solidaire, ouais. Et rester solidaire, parce que nous, on apprécie beaucoup la solidarité internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice.
Cessez le feu ou pas là?
En Palestine, à Gaza?
Oui.
Ils n'ont jamais respecté les cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu respecté par les factions palestiniennes, mais ce matin, il y a eu 5 raids ce vendredi. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés.
L'armée israélienne qui reconnaît avoir bombardé un bâtiment qui abritait 8 membres d'une même famille.
Oui, mais l'armée, elle n'a pas besoin de prétexte. C'est toujours au quotidien. Donc, les agressions. Ici, il y a un aspect très important au niveau de, pour répondre directement à la question, ajouter des précisions à la question de Tariq Mami sur, voilà. Qu'attendez-vous de se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, beaucoup des gens, ils ont besoin de sang, des morts pour sortir, pour réagir, pour agir. Non. Les agressions israéliennes sont au quotidien. Au quotidien, il y a des attaques contre les pêcheurs, contre les paysans, contre les familles, contre la population, soit à Gaza, soit en Cisjordanie. Donc, les gens, ils agissent, ils réagissent quand il y a des morts. Ça veut dire, même les médias, quand il y a moins de 10 morts, oui, c'est normal, c'est banal. Mais quand il y a plus de 10 morts, on commence à parler dans les réseaux sociaux. Et moi, par exemple, sur ma page, chaque jour, j'ai publié des événements. Quand il y a un mort, deux morts, ça va. Mais quand il y a 10 morts, les gens commencent, voilà, des centaines, voire des milliers de personnes qui suivent la page, qui commencent, voilà. Donc, nous, c'est au quotidien, on a besoin d'accompagner les Gazaouis à travers des échanges, à travers, voilà, c'est au quotidien, parce que la réalité est dure, c'est au quotidien.
Merci, voilà. Ziad Medouk, d'être venu nous voir ici même sur France Maghreb 2. Donc tu connais la radio maintenant, tu reviens quand tu veux, quand tu es de passage à Paris, en France.
Avec plaisir.
Tu es le bienvenu pour qu'on fasse le point, et on va rester en contact, évidemment.
Avec plaisir.
Et depuis Gaza, tu vas continuer de nous faire vivre ce qui s'y passe. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on te sollicite, c'est pas franchement pour de bonnes nouvelles, mais en tout cas, merci d'être notre éclaireur, notre rapporteur de là-bas, cher Ziad.
Merci de cette invitation.
Très vite, Tariq Mami, pour nous dire qu'il y a un nouveau Premier ministre en Tunisie, paraît-il.
Tout à fait. Alors, en deux mots, il y a un nouveau Premier ministre désigné ce matin. Il s'appelle Habib Jemli. C'est un monsieur qui est issu donc du monde de l'agriculture. Il n'est pas tout neuf en politique. Et il a été donc secrétaire d'État avec les deux gouvernements Nahda en 2011 jusqu'à 2013, avec le gouvernement Jebali et le gouvernement Larayat, donc les deux premiers ministres islamistes de l'histoire de la Tunisie. Et il est 60 ans et il a été au pouvoir de 2011 à 2014 et aujourd'hui il déclare sur son CV qu'il n'a aucune appartenance politique, disant qu'il n'est pas membre officiel du parti Nahda mais qu'il est proche de Nahda. Et puis la Tunisie innove en démocratie tunisienne, prouve qu'elle a tout compris de la politique politicienne, puisque vous avez le président de l'Assemblée a été élu, c'est monsieur Ranouchi, avec le soutien de ce parti adversaire, celui de Kalb Tounes. Donc l'un disait que l'autre est un parti intégriste, l'autre disait de l'un que c'est un parti de corruption, et on se trouve aujourd'hui avec une nouvelle troïka dans laquelle le parti de la corruption, le parti de la, des pattes de la Macaronie comme on dit en Tunisie, et le parti islamiste sont ensemble pour diriger l'Assemblée nationale tunisienne. Je reviendrai peut-être mardi sur tout ça.
Bon, très bien. Pourquoi mardi ? Pourquoi parce pas lundi
que, non mais oui, voilà, parce que lundi l'agenda est déjà super bouché, oui. Et que vendredi prochain ça sera très loin.
Ouais, en fait, il y a pas grand-chose de nouveau quoi.
Si, il y a beaucoup de choses nouveaux parce que vous allez avoir de la gymnastique politique, cher Christophe. Ouais. Vous allez avoir d'un côté une troïka et de l'autre un quator et essayer de comprendre la politique tunisienne. Pourquoi un troïka? Parce que la coalition islamiste Nahda Karama et Kalb Tounes, d'un côté pour le premier président de l'Assemblée nationale tunisienne et le deuxième président, et vous avez le troisième président qui vient d'un autre parti qui s'appelle Tayar, qui n'est d'accord sur rien avec les deux premiers. Bon. Donc ça fera troïka d'un côté, quator de l'autre.
C'est pas sûr que ça aide les Tunisiens à aller voter aux prochaines élections.
Si, ils ont,
ça,
et ils ont inventé une nouvelle expression en Tunisie, j'en terminerai là. En Tunisie, tout est possible.
Merci. Et tout est possible sur France Maghreb 2 aussi. Merci Audrey, merci Tarek et merci Ziad.
Merci, et merci Samia. Soirée.
Cher Samia, merci beaucoup. Il est 18h02. Bon début de soirée. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Le point sur l'actualité, le journal de Sophie Tarance. Bonsoir Sophie.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir la majorité qui se déchire sur un amendement controversé autour de l'huile de palme, amendement voté en catimini hier qui a provoqué la colère de certains députés de la majorité. C'était il y a un an, des milliers de Français manifestaient sur des ronds-points pour exprimer un ras-le-bol social. Le mouvement des Gilets jaunes était né. Un an après, on ira à Toulouse pour voir où en sont les revendications. Et puis, le rugby avec le retour de la Coupe d'Europe ce soir. Et cette question, un club français va-t-il être sacré cette année ? Réponse en fin d'édition. Les députés de nouveau appelés à voter ce soir au sujet d'un amendement au projet de budget 2020. Il prévoit que l'huile de palme soit maintenue dans la liste des biocarburants jusqu'en 2026. Amendement voté à la va-vite hier soir, sans véritable débat, ce qui a provoqué la colère des écologistes, mais aussi de certains élus de la majorité, Marie Dompère.
Oui, car l'huile de palme est tout sauf écolo. On sait que sa production est responsable en partie de la déforestation. Les députés avaient d'ailleurs décidé l'an dernier de la rayer de la liste des biocarburants dès le 1er janvier. Sauf que ces biocarburants bénéficient d'un régime fiscal favorable dont profitent entre autres Total, puisque le groupe utilise l'huile de palme pour sa raffinerie de Lamed, près de Marseille. Les écologistes dénoncent une opération de lobbying éhontée. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. Cette décision ferait gagner près de 80 millions d'euros par an au groupe pétrolier.
Et de son côté, le gouvernement maintient son avis favorable à l'amendement, ce qui pourrait provoquer quelques fritures sur la ligne politique de la majorité. Plusieurs députés de La République En Marche ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre le texte. C'est la conséquence des fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la France depuis hier. Des milliers de foyers sont encore privés d'électricité ce soir dans le sud-est du pays, et principalement dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône, où les conditions de circulation restent encore très difficiles. Un anniversaire ce week-end, cela fera un an que le mouvement des Gilets jaunes a démarré en France. Le 17 novembre 2018, c'était le point de départ de cette mobilisation, avec des blocages sur les ronds-points partout dans le pays. Exemple à Toulouse où la mobilisation a été continue avec des manifestations chaque samedi sans exception. Parmi les figures du mouvement dans la Ville Rose, il y a Odile Morin, activiste et présidente de l'association Antisocial qui a rejoint la contestation en décembre dernier. Alors aujourd'hui, est-elle satisfaite des réponses apportées par le gouvernement aux revendications des Gilets jaunes ? Écoutez.
Absolument pas. La seule chose que l'on a gagnée, la prime pour l'emploi, a été majorée. C'est grâce aux Gilets jaunes. Si a été interrompue l'augmentation de la CSG sur les retraites, c'est aussi grâce aux Gilets jaunes. Par contre, le compte est loin. Bien sûr que ce mouvement va continuer, puisqu'aujourd'hui, les réponses ne sont pas des réponses. C'est du mépris. Le débat, c'est pas un débat. C'était un début de campagne électorale de la part de Monsieur Macron. Ça s'appelle pas ça un débat. Et donc, je continuerai, je serai pas la seule. Parce que, même si beaucoup d'entre nous sont terrorisés et n'osent plus venir, de toute façon, on sera là pour tous ceux qui n'osent pas.
À Toulouse, les Gilets jaunes ont prévu de retourner sur les ronds-points dès demain matin avant une manifestation prévue à 14h au départ de Jean Jaurès dans le centre-ville. À Paris, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour un grand rassemblement sur les Champs-Élysées et malgré l'interdiction de manifester. Pour éviter les débordements, au moins 2500 membres des forces de l'ordre seront mobilisés dans la capitale. En Italie, situation toujours très compliquée à Venise ce soir, 3 jours après des inondations records qui ont dévasté la ville. Un nouveau pic de marée haute a atteint les 1,50 m aujourd'hui. Conséquence, la place Saint-Marc est fermée. Décision du maire pour raison de sécurité et éviter tout risque sanitaire. Le rugby avec le coup d'envoi ce week-end de la 25e édition de la Coupe d'Europe. 6 clubs français sont sur la ligne de départ de la Champions Cup, la grande Coupe d'Europe. Et on peut, Christophe Midouger, raisonnablement espérer que le trophée reviendra en France au printemps prochain.
Ça serait une première depuis 2015 et l'idée est loin d'être absurde. En effet, d'abord parce que les Saracens, vainqueurs de 3 des 4 dernières éditions, se sont vus infliger une lourde sanction pour ne pas avoir respecté les limites fixées pour leur masse salariale. 35 points de pénalité en championnat et ils annoncent vouloir sacrifier l'Europe pour se sauver. Ensuite, Toulouse, flamboyant champion de France au printemps, à nouveau au complet, peut une nouvelle fois briller à l'échelle du continent. Lyon ou Clermont ont aussi leur chance, comme dans une moindre mesure le Racing, Montpellier ou La Rochelle. Il reste tout de même de sérieux concurrents, les Irlandais du Leinster ou ceux du Munster notamment. Mais n'oublions pas que la finale se jouera à Marseille, de quoi aiguiser un peu plus l'appétit des clubs français.
Le coup d'envoi de la Champions Cup avec ce soir le Stade Toulousain qui ouvrira le bal sur la pelouse des Anglais de Gloucester. Enfin, Robbie Williams, invité d'honneur du concours Miss France 2020, le chanteur britannique sera présent lors de la cérémonie prévue le 14 décembre à Marseille. Il assistera au couronnement de la nouvelle reine de beauté, choisie par le public et un jury qui n'a pas encore été dévoilé. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Excellent début de soirée et bon week-end à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.